France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h19. Le Parlement se penche sur l'avenir de l'université. Il vient d'entamer en commission l'examen du projet de loi qui prévoit un investissement de 25 milliards d'euros sur 10 ans. La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, va être auditionnée à ce sujet aujourd'hui. Bonjour Marie Sonnette.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence en sociologie à l'Université d'Angers. Vous faites partie du collectif Facs et Labos en lutte, fer de lance de la mobilisation contre ce texte. Vous avez notamment organisé des rassemblements, des pétitions, des journées universitaires morte. Le Premier ministre dit pourtant que jamais un gouvernement n'avait prévu un tel investissement pour la recherche depuis 1945. C'est plutôt une bonne nouvelle, non ?
Écoutez, les chiffres qu'on nous donne dans la LPPR nous semblent assez particuliers, c'est-à-dire que, vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent. Et en l'occurrence, ce que nous propose le gouvernement ici, c'est 224 millions dans la prochaine année. Et ensuite, effectivement, jusqu'à 2030, un certain nombre de milliards, dont la plus grande partie seront données en 2030, c'est-à-dire 3 milliards en 2030. Bon, c'est-à-dire que le gouvernement Macron, lui, en fait, aujourd'hui, à l'heure actuelle, s'engage pour ces 224 millions sous Emmanuel Macron, ce qui est une toute petite enveloppe pour la recherche, sachant qu'aujourd'hui, pour arriver aux 3% du PIB, il nous faudrait 18 milliards d'euros pour arriver à pouvoir avoir une recherche à la hauteur de ce qu'on aimerait avoir.
Parce que si cette trajectoire budgétaire est effectivement votée, elle peut être détricotée un peu plus tard par un prochain gouvernement, par exemple ? C'est pas gravé dans le marbre ?
C'est pas gravé dans le marbre. Chaque gouvernement est bien sûr libre de ses choix budgétaires.
On entend régulièrement que l'université va mal. Pour s'en rendre compte, j'aimerais prendre votre exemple, votre parcours. Alors vous êtes sociologue de la culture, spécialiste des musiques hip-hop. Vous êtes aujourd'hui maîtresse de conférence, ça veut dire que vous êtes titulaire, mais ça vous a pris combien de temps, combien d'années de précarité avant de décrocher ce poste ?
Si on compte que j'ai commencé à enseigner dès le début de ma thèse, c'est-à-dire en 2007, que j'ai fait ma thèse en 6 ans parce que je n'étais pas financée et que je devais travailler à côté, j'étais animatrice pour des enfants, que j'ai dû enseigner à la fac en même temps, etc. et que j'ai ensuite eu un parcours de 3 années avec des contrats extrêmement précaire, etc. Une fois que j'étais diplômée, ça m'a pris 10 ans. Maintenant, moi, j'ai quand même été recrutée à 32 ans, ce qui est un grand privilège dans notre métier, parce que la moyenne de recrutement est à 34 ans pour ceux qui sont recrutés. Donc, j'ai un double privilège. Le premier, c'est d'avoir été recrutée, ce qui arrive à une toute petite minorité de personnes qui font des thèses et qui sont diplômées. Et surtout que j'ai été recrutée un tout petit peu plus tôt que la plupart de mes collègues.
Et un poste de professeur, c'est envisageable ou c'est inatteignable ?
En l'occurrence, aujourd'hui, c'est pas du tout dans mon horizon des possibles. C'est-à-dire que, vu la quantité de travail que j'ai, parce que quand on est maîtresse de conférence aujourd'hui, on est enseignante, on est chercheuse, et on est aujourd'hui, à l'heure actuelle, principalement responsable administratif, c'est-à-dire que la plupart de mon temps de travail, la semaine dernière, je pense que j'ai travaillé environ 75 heures sur la semaine, la plupart de mon temps de travail est avant tout dédié à des tâches administratives, c'est-à-dire faire des groupes de TD, s'occuper des absences des étudiants, recruter des enseignants, s'assurer qu'ils ont bien été payés par les ressources humaines, ce genre de choses.
Mais pourquoi toutes ces tâches administratives, ça fait quand même partie de votre job ou c'est parce que les personnes qui doivent faire ce boulot, ben, y en a pas en ce moment,
parce qu'il y a une pénurie. Aujourd'hui, on a une pénurie de postes à l'université, c'est-à-dire que ce qui était des tâches de responsabilité auparavant pédagogiques aujourd'hui se transforment en tâches de responsabilité administrative, parce qu'il n'y a non seulement pas suffisamment de personnel administratif qui est complètement débordé de travail. Pour vous dire, moi je suis sur un campus qui est excentré, pour lequel on a 5 personnels administratifs et encore pas à temps plein pour faire fonctionner un campus entier sur Cholet. Et puis parce que auparavant nous étions, pour un certain nombre d'étudiants, un ratio beaucoup plus important d'enseignants-chercheurs qui se partageaient ces tâches-là avec plaisir, parce que sur les étudiants, c'est toujours du plaisir, etc. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a ni le temps de préparer nos cours, ni le temps de faire de la recherche, parce qu'on est avant tout débordé de ce type de tâches-là, parce que c'est bien pratique, parce qu'on peut nous demander de tout faire, parce qu'on aime notre métier et qu'on a envie que l'université fonctionne.
Alors, on a abordé plusieurs points, hein, à la fois la précarité des professions au sein de la faculté, et puis ce problème de manque de personnel pour régler les tâches administratives. Est-ce que la loi va changer quelque chose ?
Alors, la loi, ce qu'elle nous propose aujourd'hui, c'est des postes qui vont être encore davantage précaires. C'est-à-dire qu'elle ne nous propose pas de recruter. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on demanderait 6000 postes par an pendant 5 ans pour arriver à résorber le trop-plein d'étudiants. Il faut savoir qu'à cette rentrée, hein, la rentrée Covid, on a eu 30 000 étudiants en L1 supplémentaires. Il faut savoir que depuis 10 ans, on a 300 000 étudiants supplémentaires à moyen constant. On n'a pas eu un recrutement, pas un seul enseignant de plus pour gérer ces 300 000 étudiants supplémentaires à l'échelle de la France. Donc nous, on demande de pouvoir arriver à résorber ce différentiel. Il faut savoir aujourd'hui aussi que les universités, elles fonctionnent avant tout parce que ce sont des vacataires qui font fonctionner, des précaires, des extrêmement précaires qui font fonctionner les universités. Ce sont 125 000 précaires, 127 000 vacataires qui donnent cours. Parfois, ils sont jusqu'à 70% des contingents d'enseignants dans les licences pour faire fonctionner nos universités. Un vacataire, il est payé en dessous du taux horaire du SMIC, il faut le savoir quand même. C'est-à-dire que les étudiants face à eux en France aujourd'hui, ils ont majoritairement des personnes qui sont payées en dessous du taux horaire du SMIC pour les former.
Mais la ministre dit qu'il va y avoir une revalorisation des carrières, dit qu'il va y avoir de l'argent, plusieurs centaines de millions d'euros qui vont être mis sur la table, et elle dit même que cela équivaudra à un 13e, voire un 14e mois pour les maîtres de conférence.
Alors on nous propose 1 000 euros de prime. Heureusement que c'est pas un 13e mois, je suis payé un peu plus de 1 000 euros.
Vous êtes payé combien, on peut le dire?
Je suis payé 2 300 euros par mois. Voilà, donc 1 000 euros de prime, oui, effectivement, ça va mettre du beurre dans mes épinards, on crache jamais dessus. Mais très honnêtement, vu le nombre de burn-out qu'on fait, vu les conditions de travail, aujourd'hui, ça nous fait bien rigoler. Ce qu'elle nous propose aussi, c'est de mettre en place des contrats qui vont être des contrats encore plus précaires, c'est-à-dire des contrats qui sont des périodes d'essai indéfinies. Soit des chaires de professeurs juniors, soit des CDI de projet, ce qu'on appelle les CDI de projet, c'est-à-dire qu'on un maximum, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 6 ans dans ces contrats-là, qui sont renouvelés tous les ans. C'est-à-dire que si on donne satisfaction à notre employeur, on est renouvelé. Et donc, en fait, qui sont finalement des périodes d'essai indéfinies. C'est ça que va nous proposer la ministre. Là où nous, ce qu'on demande pour pouvoir faire de la recherche, pour pouvoir se concentrer sur le temps long à nos recherches et produire de la qualité scientifique, on demande des postes pérennisés avec des moyens qui nous permettent de chercher. Et ça, c'est absolument pas ce que nous propose aujourd'hui la LPPR. Elle nous propose le contraire, le détricotage de nos statuts et la casse du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Et à propos de la recherche, parce qu'il nous reste plus qu'une minute, j'aimerais qu'on aborde ce sujet. Il va y avoir plus de moyens pour l'ANR, hein, l'Agence Nationale de Recherche, et ça va passer maintenant par davantage, en tout cas par des appels à projets. J'aimerais savoir comment ça fonctionne quand il y a un appel à projet, il faut répondre comme si on faisait un devis, c'est ça?
On fait un devis, on répond des projets, on passe notre temps à faire ça. Et
mais
si
c'est
on
quoi, c'est une fiche à remplir, ça prend deux heures, c'est huit jours?
Non, c'est des dossiers qui prennent des années, parfois des années à remplir. Il faut savoir par exemple que sur des projets, comme des projets européens, Horizon 2020, ce sont 6 milliards d'euros que les laboratoires européens ont perdu à sans obtenir d'argent au bout. C'est-à-dire qu'on met de la masse salariale à remplir des projets sans obtenir l'argent pour chercher. C'est-à-dire qu'avant tout, avant d'être chercheur, on est chercheur d'argent. Pour pouvoir chercher aujourd'hui en France et en Europe, il faut d'abord chercher l'argent et si on n'a pas l'argent, tant pis. Il faut voir ce que disent les chercheurs. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un comme Bruno Canard, qui est un chercheur sur les coronavirus aujourd'hui, dit qu'en France, on a stoppé les recherches sur les coronavirus quand ils sont sortis il y a plus d'une vingtaine d'années.
Mais justement, là, il y aura plus d'argent pour cette Agence nationale de la recherche, donc c'est plutôt bien ça, non?
Eh bien, c'est toujours sur le même mode, c'est sur le mode de la concurrence. Et c'est sur le mode de avant tout, il va falloir que vous soyez en concurrence, vous chercheurs, pour savoir qui aura les moyens et qui aura le droit de chercher. Nous, ce qu'on pense, c'est que pour pouvoir produire une recherche de qualité, il faut le faire sous le mode de la coopération, avec des moyens pérennes qui nous permettent de chercher sur le temps long. Avant de finir, j'aimerais juste dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron nous dit que nous, les enseignants, on creuse le déficit, on dit qu'on ne relève pas la France. J'aimerais juste dire que l'avenir de la recherche, l'avenir de l'éducation en France, n'est pas juste l'avenir de la recherche et l'avenir de l'éducation, c'est l'avenir tout court. Parce que si on arrête de chercher sur ces questions essentielles à pouvoir construire le monde de demain, eh bien, on va tout droit à la catastrophe telle qu'on est en train de la connaître, telle qu'on la connaît aujourd'hui dans cette rentrée-là, et qui nous fait vivre des choses complètement orwelliennes et qu'il faut absolument arrêter. Et ça, ce sera grâce aussi à l'éducation. Et la recherche.
Merci beaucoup Marie Sonnette. On pourrait faire une heure d'émission sur le sujet. Vous êtes maîtresse de conférence en sociologie à l'Université d'Angers. Vous étiez l'invitée du 5-7.